Après cette première partie du culte, j'ai presque envie de changer le message. Non, je ne vais pas le faire parce que vous avez quand même un plan qui est imprimé dans votre programme et je ne voudrais pas donc saboter donc le travail de, je ne sais pas si c'est Pierre-Yves ou Cathy qui a, qui a donc préparé cette feuille. J'aurais presque envie de parler de la richesse de vivre un enfant de Dieu, de connaître, de goûter à la fidélité de Dieu malgré notre infidélité. C'est ça qui me frappe, parce que moi, je n'ai pas toujours été fidèle à Dieu. Oh, je n'étais pas un caïd, j'ai jamais tué qui que ce soit, j'ai jamais fait une descente dans une banque, j'ai toujours été fidèle à mon épouse, qu'est-ce que vous voulez, enfin, j'ai été un bon petit gars, j'ai été un bon petit chrétien dans mon église et tout, mais je n'ai pas toujours été si fidèle à cela au Seigneur. J'ai essayé, mais j'ai mes torts comme n'importe qui. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je trouve que la fidélité de Dieu, sa bénédiction, le fait qu'il ne nous lâche pas, et le fait qu'il nous rétablit une fois qu'on a chuté, c'est ça qui m'étonne. Et les êtres humains ne sont pas comme ça. On nous fait une vacherie, excusez-moi de le dire, enfin bon, mais... pour les jeunes. Bon. Et puis, là, on est... Bon, mais c'est fini avec toi. Bon, je ne vais plus te voir, etc. Tu as été méchante avec moi. Bon. Mais Dieu n'est pas comme ça. On se repent, on revient vers Dieu, on demande pardon. Et Dieu nous relève. Dans n'importe quelle circonstance, il y a des gens qui ont chuté. Ce n'est pas une raison pour le faire, parce qu'il y a des conséquences à nos chutes, hein. Là, on était chez Pierre-Yves et Cathy hier après-midi, et c'est laquelle qui a chuté? Pauline a chuté. Bah, aujourd'hui, tu peux regarder Pauline, elle a quand même les marques qui restent. Et ça lui a fait mal. Donc, ça fait mal quand nous chutons, mais étant la bonne maman qu'elle est, Cathy s'est occupée, mec chrome, je ne sais pas quoi, enfin, bon, ben, penser les blessures et tout, et ça va se guérir. Mais j'aurais aimé ne pas être passé par certaines choses où Dieu a dû, en quelque sorte, me faire la fessée, et même pire, pour que j'apprenne à être plus fidèle à lui, comme il est fidèle à moi. Mais moi, je suis reconnaissant ce matin pour un Dieu qui est fidèle. Ça fait 46 ans que nous sommes arrivés sur le sol français, début février 1965. Mariés depuis 6 mois, Joyce, une jeune mariée de 23 ans, qui a quitté, fille unique, qui a quitté ses parents au Colorado. Moi, j'ai quitté ma famille au Massachusetts. Bon, ben, il y avait toujours mes deux frères qui étaient là-bas, au pays. Et nous sommes venus vivre une vie qui, nous remarquons maintenant, avec 46 ans de recul, a été une vie formidable. Il fallait s'habituer d'abord, chacun à l'autre, parce qu'on était nouvellement mariés. Ce n'était pas toujours sans eux, parce que tous les deux, nous avons notre volonté, et malgré la douceur renommée de Joyce et sa gentillesse, c'est une personne qui a des convictions fermes, elle n'est pas têtue, pas toujours en tout cas. Mais... c'est incroyable la façon dont Dieu a pu nous prendre en tant que couple, deux personnes de divers coins des États-Unis. Nos villes natales sont séparées de la même distance que Paris et de Moscou, donc c'est par la porte à côté. Et nous avons dû apprendre à vivre ensemble et à vivre selon la volonté de Dieu pour nous. Ça n'a pas toujours été facile, surtout parce que moi, je suis compliqué. Et Joyce l'est beaucoup moins, beaucoup plus équilibré que moi. Mais enfin, le Seigneur a quand même fait quelque chose dans notre vie qui nous a permis de travailler d'abord au nord de Paris, à Villiers-le-Bel, pour démarrer une église. Je n'avais pas les dons pour cela, mais des personnes sont venues pour nous aider dans ce travail. Et ce n'était pas toujours facile. Je ne veux pas dire que la vie chrétienne est facile. Je ne veux pas dire qu'une fois qu'on est chrétien, on n'a jamais plus de problèmes. C'est un non-sens, cela. On a même plus de problèmes parfois. Mais la différence, c'est que le Seigneur est là dans nos problèmes. Il est là, il nous soutient et il nous relève. Et ça, je ne sais pas pour votre Dieu, mais ça, c'est mon Dieu, c'est le Dieu que je trouve dans la Bible. Et ça a été une expérience formidable de vivre avec ce Dieu, de vivre à côté d'une femme, avec une femme, d'être unie à une femme qui aime le Seigneur et qui était un soutien dans mon ministère. Je n'aurais pas pu faire le travail que nous avons fait s'il n'y avait pas eu Joyce. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, et Joyce est mon Sam. Et je l'entends vraiment. Et quand j'ai vu ce troisième film du Seigneur des Anneaux, et Sam a dit, je ne peux pas porter l'anneau, mais je peux te porter. J'ai pleuré dans le cinéma, j'ai serré Joyce dans mes bras et j'ai dit, merci d'avoir été mon Sam. Parce qu'elle m'a vraiment porté par moments. Enfin, alors tout ça, ce n'était pas dans mes notes, mais je voulais simplement dire que la vie que le Seigneur nous a donnée a été une vie merveilleuse. Nous sommes venus en France, donc, pour un ministère jusqu'à la retraite. À 65 ans, j'ai pris la retraite. C'est il y a 8 ans maintenant. Et on est toujours actifs pour le Seigneur et au sein de l'association Baptiste et plein d'autres choses, comme Pierre-Yves et Cathy ont dit. Et c'est vrai, je connais Cathy depuis la fin des années 80. Elle a à quelques jours près, le même âge que ma fille, ça a été toujours aussi un peu une fille pour moi, surtout après ces 2 ans de stage, où tant bien que mal, j'ai essayé d'être le maître de stage. Et puis un peu plus tard, on a fait la connaissance de Pierre-Yves, et puis ils se sont vers la connaissance l'un de l'autre, et l'inévitable est arrivé. Et nous avons eu la joie de faire leur préparation de mariage, les accompagner, etc. Donc si le mariage bat de l'aile, c'est peut-être un peu notre faute. Je disais, non, mais ce n'est pas vrai. Mais alors, merci pour les choses que vous avez dites, c'est touchant. Mais tu sais, tout ça, ce n'est pas en sens unique. Parce que nous, on a reçu beaucoup de vous. Beaucoup, beaucoup. On a été vraiment bénis. Et ça se répète maintenant dans notre vie, dans notre ministère pour l'association Baptiste. Il y a des relations qui se tissent dans les 55 églises, pratiquement, peut-être pas toutes, mais bon nombre des 55 églises de l'association, qui sont riches. Et c'est merveilleux. Je ne peux pas imaginer à mon âge avoir la vie de bénédiction et de richesse que nous avons. Et ça, c'est la grâce de Dieu parce que nous ne le méritons pas. Et je me rends compte de plus je vieillis, combien nous sommes dépendants de la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui nous relève dans nos chutes. Alors, tout cela, c'était pas dans mes notes. C'était un surplus, donc vous pouvez commencer à prendre des notes dans un instant. Mais d'abord, nous allons lire le passage pour aujourd'hui dans Romains 12, versets 1 et 2, un passage que beaucoup connaissent, qui est assez connu. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et je vous invite à prier. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. non pas une grâce qui est insipide ou qui se résume à des, excusez-moi de le dire, Seigneur, mais à des bondieuseries, mais qui est vraiment une grâce qui est profonde, plus profonde que nous puissions jamais imaginer, et qui nous cherche là où nous sommes, et qui nous trouve, qui nous relève. Et je prie, Seigneur, ce matin, afin que tu nous donnes un aperçu du culte, parmi d'autres choses, mais surtout que tu nous donnes la possibilité de comprendre ce que tu attends de nous. Pas ce que tu attends de celui à côté de moi, ou dans un autre rang, mais de moi. Et je prie, Seigneur, afin que tu me dises encore aujourd'hui, pour moi, ce que tu attends de ma vie. Et Seigneur, je prie afin que tu m'aides. Tu sais que c'est toujours difficile de me lever derrière la chair. Je suis conscient de mes faiblesses, de mes manquements, mais je suis conscient aussi que tu es puissant pour combler tout cela. Et je me remets entre tes mains, comme nous tous, afin que cette parole qui vient de toi nous fasse du bien aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Nous gardons d'excellents souvenirs du week-end à Jude il y a un an et demi, et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Je voulais commencer par cela, mais j'avais été un peu ému par le début du culte aujourd'hui, c'était ça dans mon esprit. Mais j'espère que nous aurons l'occasion de revenir un peu plus souvent, je ne sais pas. Nous sommes heureux d'être là avec vous aujourd'hui et de renouveler ces contacts. Mon problème, c'est qu'à mon âge, j'ai la mémoire de nom qui commence à disparaître, donc si je n'ai pas votre nom au bout des lèvres, donc ne m'en voulez pas. Bon. Mais nous attendons aussi passer un moment avec vous au repas après. Mais ce matin, nous sommes réunis pour un culte. Culte à 10 heures, l'Église évangélique baptiste de Villefranche-sur-Saône. Mais savez-vous ce que cela veut dire, culte? Ce n'est pas mon genre de faire l'exégèse des mots et de sortir des mots grecs ou latins ou autre chose, mais il faut dire que le mot culte a ses racines dans un mot latin qui veut dire adorer. Nous sommes ensemble ce matin pour adorer Dieu. En anglais et en allemand, c'est intéressant, on appelle la rencontre du dimanche matin un service. Je ne sais pas si vous avez voyagé en Allemagne, je ne suis pas très fort en allemand, mais souvent on voit entrer d'un village Gottesdienst. Ça veut dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un service pour Dieu.
Service pour Dieu. Un service pour Dieu. Et en anglais, c'est la même chose. On peut dire aussi, on peut voir aussi, par exemple, Audi Dienst ou quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on est là pour le service des voitures. Bon, non mais, n'est-ce pas, c'est dans les garages. Peugeot Dienst, Audi Dienst, etc., c'est ce mot servir. Bon, ben, on est là pour une station de service, etc., qu'on peut servir. Donc, on emmène la voiture et on ramène après, on ne peut plus rien savoir du garage entre-temps. Bon, ce n'est pas le cas de l'Église, j'espère. Donc, être un service pour Dieu, être au service de Dieu ou accomplir un service pour Dieu. Alors, vous êtes venu ce matin pour un culte, mais pourquoi êtes-vous venu? Bon, si les petits étaient là, ils diraient peut-être parce que maman et papa m'ont amené, m'ont obligé de venir, bon. Mais quelle est votre motivation principale? Est-ce surtout pour présenter quelque chose à Dieu? Tout à l'heure, on a passé une corbeille, plusieurs ont mis quelque chose dedans, on a apporté quelque chose, ça fait partie du culte. Est-ce pour votre adoration, apporter votre reconnaissance, votre offrande matérielle? Et plus important encore, est-ce pour vous présenter vous-même à Dieu? Ou, et c'est tout à fait légitime, êtes-vous venu plutôt pour recevoir quelque chose? Tout à fait légitime. Ce n'est pas du tout contraire à l'enseignement biblique. Et toutes ces raisons sont valables et bonnes, mais celle qui est avant tout la raison de notre venue au culte devrait être de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Et cela pour Dieu, dit ces versets, Romains 12, 1 et 2, est beau et agréable et lui fait du bien. C'est un service pour Dieu, une adoration de Dieu. Rappelons-nous ce que Paul a dit dans Actes 20, 35. Le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ayant dit cela, le culte est en réalité beaucoup plus que ce que nous faisons le dimanche matin. Le culte de dimanche n'est pas une station-service. Ce n'est pas comme Audi Dienst en Allemagne, où on amène la voiture pour être, on s'en occupe, et puis on part, et puis c'est fini. Le culte n'est pas une station-service où on est là pendant un an, une heure et demie pour faire le plein. Le culte est bien plus que cela. Nous venons au culte pour une raison très particulière. Nous ne venons pas comme consommateurs, simplement. Le vrai culte, et ça c'est le vrai thème de mon message ce matin, le vrai culte est un acte que nous rendons à Dieu tous les jours. Un acte qui d'ailleurs lui fait du bien. Et en conséquence, nous fait du bien à nous aussi. Le vrai culte est un culte permanent que nous vivons et que nous rendons à Dieu à chaque instant. Vous allez me dire, mais écoutez, vous avez dit que par le culte, notre vie, notre adoration, etc., nous faisons du bien à Dieu. Mais ce n'est pas possible, Dieu est parfait, on ne peut pas ajouter quelque chose à Dieu. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que nous ajoutons quelque chose à un Dieu parfait. J'ai dit qu'on lui fait du bien. Parce qu'on l'oublie parfois, notre Dieu est un Dieu relationnel. Et nous avons une relation avec lui. Et tout comme Pierre et Yves et Cathy ont été tellement gentils de parler du bien que Joyce et moi leur avons fait, et moi j'ai dit que c'était réciproque et ils nous ont fait beaucoup de bien à nous, mais vous pensez que Dieu est insensible au culte que nous lui présentons, et pas simplement le dimanche matin, mais toute la semaine. Dieu est très sensible à nos actes d'amour et d'adoration, à notre vie vécue pour lui, parce que c'est un être relationnel qui aussi, Dieu a, ose-je le dire, ses émotions aussi. Je voudrais explorer ce matin avec vous ce que c'est que le culte permanent. Et voilà, c'est le premier point qui est dans votre programme. Le vrai culte, le culte permanent, comme le dit Paul, c'est notre vie à la disposition de Dieu. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul écrit dans Romains 12, 1 que le culte ou service qui est raisonnable pour nous chrétiens, c'est offrir nos corps à Dieu. C'est un sacrifice selon Paul, mais ce n'est pas le sacrifice d'un être mort. À quoi ça sert dans notre cas? Comme ceux de l'Ancien Testament. C'est un sacrifice qui est vivant. Un sacrifice qui est saint, c'est-à-dire purifié pour lui. Un sacrifice qui est agréable à Dieu. Agréable à Dieu parce que ce genre de sacrifice est un culte ou un service logique ou raisonnable à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous. Donner notre vie à Dieu est absolument logique et raisonnable. Et nous savons que les Français sont fiers de leur logique. Bon, ben, je pense que je suis devenu plus logique depuis que je suis en France. Enfin, je ne sais pas. Enfin, donc j'admire la logique des Français qui est parfois illogique, mais ce n'est pas grave. Donc. Ou inconséquent, peut-être. Bon, mais c'est raisonnable, c'est logique. Et pourquoi? Dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, nous lisons, « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Et que vous n'êtes pas à vous-même. Votre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Vous l'avez reçu de Dieu, et ça veut dire que vous êtes à Dieu. car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au Seigneur. Notre vie à la disposition de Dieu est logique et raisonnable parce que nous appartenons à Dieu. Il a payé le prix fort. Il a payé le prix fort en donnant son Fils pour mourir pour nous. Et parfois, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. On m'a toujours amené à l'église, depuis tout petit, depuis bébé. Et j'étais présenté au Seigneur par des parents qui ne connaissaient pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui l'ont trouvé peu de temps après. J'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, que Jésus est mort pour moi et qu'il m'a racheté. Mais je vais vous dire aujourd'hui que cette vérité est encore aussi précieuse, sinon pas plus, que la première fois que je l'ai entendue. Ce n'est pas de l'avoir entendu à répétition à travers toutes ces années que c'est devenu une banalité pour moi. Le culte permanent est donc un culte authentique et sincère qui va plus loin que les rites et les formes. Aujourd'hui, on a eu ce que certains pourraient appeler des rites. On a chanté, on s'est levé, on s'est assis, on s'est levé, on s'est assis. Il y a eu des paroles, il y a eu des lectures. On a prié, on a pris la Sainte Cène. Certains appelleraient ça des rites. Bon, mais je pense qu'il y avait plus que des rites vides et habituels. Là, il y avait quelque chose de vivant et tout. Mais le culte permanent engage notre être tout entier. Et évidemment, ce culte est pratiqué à chaque instant, et pas simplement pendant une heure et demie le dimanche matin. Alors, si le vrai culte ou le culte permanent est notre vie à la disposition de Dieu, deuxièmement, je voudrais dire, le culte permanent est surtout une question de la disposition de notre cœur, parce que Dieu voit ce qu'il y a là-dedans. Dieu n'a pas une radiographie, il n'a pas une IRM, mais il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Moi, je suis cardiaque, on a mis 2 stents l'année dernière, donc j'ai vu moi-même sur l'écran mon cœur, mais le médecin était très calé. Il ne savait pas le côté moral de ce qu'il y avait, entre guillemets, dans mon cœur. Ce n'est pas possible, mais Dieu, oui, il le sait. Donc, le culte permanent est une question de la disposition de notre cœur. Il est dans nos attitudes et il est dans les attitudes de notre cœur plutôt que dans nos gestes, même nos gestes cultuels. Bon, mais nos gestes étaient parfaits ce matin, je pense que tout le monde a fait ce qu'il fallait au bon moment, etc. Mais ce n'est pas pour cela que ce culte est agréable à Dieu. C'est parce que Dieu regarde le cœur de chacun pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Et je sais, il y a des moments où mon esprit divague quelque part et je ne suis pas là-dedans. Je suis très loin, je ne sais où, en pensant aux vacances qui vont venir ou aux vacances de l'année dernière ou je ne sais quoi encore, ou ce film que j'ai vu hier soir ou ce que je vais regarder à la télé ce soir, ben, je ne sais pas, n'importe quoi. Ou peut-être vous pensez au bon repas que nous allons partager tout à l'heure. Peut-être si vous êtes une ménagère, vous espérez que vous avez préparé, ça va plaire à tout le monde, etc. Je ne sais pas, mais notre esprit n'est pas toujours disposé à être dans la ligne de ce que Dieu veut. Mais Dieu s'intéresse à ce qui est vraiment dans notre cœur. Il comprend aussi que parfois l'esprit divague et il nous pardonne. Bon. Alors, le geste peut être parfait d'un point de vue cultuel quant à sa forme, mais est-ce authentique? Est-ce que ce que nous avons fait ce matin, ce que nous faisons est simplement de la routine? Ou est-ce que le cœur y est aussi? Le sacrifice que Dieu souhaitait sous l'Ancienne Alliance n'était pas premièrement des animaux. Alors, lisez certains livres de l'Ancien Testament, Lévitique et compagnie, et bien c'est absolument casse-pied ce qu'ils avaient dû faire pour présenter des offrandes. Mais c'est pas gérable, c'est pas faisable. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on a pu suivre ce genre de culte. Non, mais ce n'était même pas ça que Dieu voulait, emmener tous ces animaux, oui, il a ordonné, mais c'était plutôt le croyant lui-même et ses attitudes, ses motivations, la disposition de son cœur et sa vie de tous les jours. Dieu désirait moins les rituels que le cœur tourné vers lui. Et trop de gens en France aujourd'hui pensent que vivre la religion, et j'aime pas trop ce mot, c'est simplement faire des rituels. Mais Dieu, il se moque de cela, excusez-moi de le dire. Dieu veut savoir ce qu'il y a dans le cœur et pourquoi on fait ce qu'on fait. Samuel a parlé à Saül, le roi, de l'obéissance, qui pour lui était bien plus importante que le sacrifice. Et Samuel a repris le roi Saül pour son manque d'obéissance. Rappelez-vous que Saül devait détruire les Amalécites, il devait absolument les rayer de la carte, parce qu'ils avaient été en abomination à Dieu, ils avaient aussi persécuté le peuple de Dieu, et Saül n'a pas obéi, il a gardé le meilleur du bétail, et en disant « pour sacrifier ». Bon, il avait une raison un peu trouvée. Et Samuel a dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission ou écouter vaut mieux que la graisse des béliers. Ce que je veux, c'est votre cœur tourné vers moi dans l'obéissance. Et Michée a exhorté le peuple, je ne sais pas si vous avez fait il y a 6 mois environ le défi Michée, il y a juste 6 mois, le 10-10-10, oui, c'est ça. Et Michée a exhorté le peuple avant de présenter leurs offrandes à pratiquer le droit ou la justice, à aimer la loyauté ou la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né? Quelle horreur! Pour mon péché, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit. C'est que tu marches, tu aimes la loyauté ou la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce n'est pas le culte que Dieu désire avant tout, c'est vraiment vivre pour lui, se donner à lui, que votre vie soit un sacrifice vivante et agréable à Dieu. David avait appris par son double péché si répugnant, de meurtre et d'adultère, que Dieu préfère un esprit brisé et un cœur contrit au rituel cultuel. Les sacrifices, dit David, qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit au Dieu. Tu ne le dédaignes pas. Et David avait fauté, le grand roi des Juifs, il avait fauté par le meurtre et l'adultère. Et Dieu l'a relevé. Dieu lui a pardonné et il l'a relevé. Il a subi des conséquences de son acte, c'est vrai. Mais il a été rétabli par Dieu. Il n'est jamais trop tard pour se mettre en règle avec Dieu. Nous voyons donc que le vrai culte est un culte permanent. Tout d'abord, notre vie à la disposition de Dieu et qui a comme fondement les attitudes et une disposition de cœur qui sont à la gloire de Dieu et qui se reproduisent dans notre façon de vivre chaque jour, et pas simplement le dimanche matin pendant 1h30. Est-ce que j'ose dire que nos motivations sont plus importantes pour Dieu que nos actes? Dieu mettra en lumière les desseins, les motivations de notre cœur, et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et Dieu, un jour, il risque de manifester la vraie raison pour toutes ces années de service que nous avons vécues pour le Seigneur. Pourquoi l'ai-je fait? Pour attirer une sorte de, je ne sais pas, satisfaction humaine de ce travail? Ça pourrait être le cas. J'espère que non. Je pense que non. Mais il va mettre au clair pourquoi j'ai servi le Seigneur tel que je l'ai servi. Et Proverbe 21, 2, 3 dit, « Le Seigneur, l'Éternel pèse le cœur, la justice et le droit plutôt que les sacrifices. » Mais ayant dit tout cela, il faut aussi dire aussi qu'il y a une vie qui découle de nos attitudes et de notre disposition de cœur. Les bonnes attitudes dont on a parlé et la bonne disposition du cœur aboutissent à quelque chose. Et c'est ce que je veux dire en troisième lieu. C'est pour cela que le culte permanent, c'est vivre la présence de Dieu à chaque instant. C'est vivre pendant toute la semaine qui vient, pendant les mois qui viennent, l'année qui vient, pendant tout le restant de notre vie, c'est vivre la présence de Dieu. C'est aussi, cela a aussi le sens de Romains 12, 1 et 2. Ne vous conformez pas, donc c'est un sacrifice agréable à Dieu, un culte raisonnable, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, Paul parle d'une transformation de notre être, de notre mentalité. Et c'est là le problème de chrétiens. Tout en acceptant Jésus dans notre vie, nous n'avons pas vécu un vrai changement, une transformation de notre mentalité, de notre être. J'ai la joie d'étudier la Bible avec un jeune voisin. Bon, il a 18 ans, il fait le bac cette année. Et ce jeune garçon, César, est allé à un camp chrétien l'été passé, invité par une copine à l'école. Il s'est converti, il a prouvé le Seigneur. Et son moniteur de colonie de vacances lui a dit, de camp, lui a dit, maintenant c'est comme si tu portes un t-shirt qui dit, j'appartiens à Jésus-Christ. Et quand tu quitteras le camp, alors tu auras peut-être un jour, de temps en temps, tendance à vouloir cacher ce t-shirt pour que les gens ne le voient pas. Et ça avait fortement impressionné mon jeune ami César. Ça avait fortement impressionné, il a dit, moi je ne veux pas cacher mon t-shirt. Ça veut dire mon témoignage, ma vie pour le Seigneur. À 18 ans, il avait appris ça. C'est un garçon absolument, c'est un amour, il échoue, enfin, je ne sais pas. On a tellement de plaisir, j'ai dit, mais t'es mon ami, tu me fais beaucoup de bien. Il a dit, moi, pas pour le monde. Mais enfin. Mais il absorbe la parole de Dieu comme une éponge. Ce n'est pas croyable. Et il veut que son t-shirt se voit tout le temps. Je trouve que c'est beau. Parce qu'il a subi une transformation de sa mentalité, ce que certains chrétiens, malheureusement, n'ont pas encore vécu. Parce qu'ils ont un pied dans l'église et l'autre qui est en dehors et qui, on vacille. Et quand on vacille comme ça, on est à droite, on est à gauche et à droite, etc., on n'est pas très heureux finalement, parce que ce n'est pas clair. On n'a pas une position claire devant ses amis. Quand on a une position claire devant ses amis, on est beaucoup moins embêté que quand on est un peu volage. Nous avons tendance, et c'est peut-être normal, à vivre notre vie par compartiment. Et cette tendance, on me dit, est sans doute plus habituelle chez les hommes que chez les femmes. Bon, il y a des compartiments dans notre vie. Il y a le compartiment de la famille et des amitiés, celui du travail ou bien de l'école, le compartiment des courses, des repas et du ménage. Et puis il y a nos loisirs, c'est très important, et il y a, bien sûr, l'Église. Et tout ça, ce sont des compartiments que nous vivons. Maintenant, nous sommes dans le compartiment de l'Église, n'est-ce pas? Alors, ce soir, ce sera peut-être, ou cet après-midi, le compartiment des loisirs. Et puis demain, le travail ou l'école, etc. Nous vivons notre vie comme ça. Et souvent, nous regardons tout cela comme étant des éléments séparés dans notre vie. Mais Dieu les regarde comme faisant un tout. un tout où Dieu est non seulement présent, mais au centre. On n'est pas moins en train de faire un culte demain au travail ou à l'école qu'on l'est maintenant. Est-ce que votre travail ou vos études sont un culte que vous offrez à Dieu? C'est ça que Dieu veut dire ici. C'est aussi demain et pas simplement ce matin. Un tout où Dieu est non seulement présent mais au centre. Et quand tous ces aspects de notre vie sont vécus à la gloire de Dieu, c'est un véritable culte que nous lui rendons. Et je vais vous dire autre chose, c'est que nous sommes plus équilibrés et plus heureux quand toute notre vie est vraiment vécue à la gloire de Dieu. Paul le dit très clairement dans 1 Corinthiens 10, 31. « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quoi de plus banal qu'un acte qu'on accomplit pour Dieu 3 fois par jour? Est-ce que vous mangez à la gloire de Dieu? Ben, je connais les gens qui ne mangent pas à la gloire de Dieu parce que ils vont trop souvent chez McDo ou KFC ou je ne sais pas quoi, et puis ils grossissent. Je ne suis pas sûr que c'est à la gloire de Dieu. Moi, je dis ça parce que je suis en train de perdre quelques kilos de trop. Donc, et je me pose la question, ce n'est pas à la gloire de Dieu, mon surpoids. Bon, enfin, ça c'est ma conviction à moi, excusez-moi, mais... Mais c'est banal, manger 3 fois par jour, certains 4 ou 5, enfin, mais... Est-ce que c'est simplement de la routine? Glorifier Dieu? Mais certainement non. Mais le fait est que nous glorifions Dieu par nos actes, même les plus banals, je dirais même routiniers, quand nous les faisons pour lui, à partir de motivations qui lui sont agréables. Tout devient un acte d'adoration, un culte rendu à Dieu, un service pour lui. En ce qui concerne l'Église, nous avons cette même tendance à vivre par compartiment. Nous présentons nos dîmes et nos offrandes à Dieu et c'est excellent. Alors, je fais tout pour donner généreusement au Seigneur. Mais quand je mets le montant que je mets au Seigneur, et Joyce et moi avons calculé ce que nous voulons donner au Seigneur et parfois on donne plus ici et là, ça c'est notre affaire. Je ne peux pas dire, mais écoute, moi j'ai donné au Seigneur, maintenant les 9/10 qui restent, par exemple, c'est à moi, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais non. Mais si je lis ma Bible si je suis juste dans ma lecture, tout appartient à Dieu. Et il a son mot à dire, j'avoue qu'il y a un truc que je voudrais acheter. Je voudrais remplacer quelque chose que nous avons à la maison. Sûrement cet appareil marche toujours. Mais il est un peu démodé. Et je ne sais pas, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas osé encore prier que cet appareil tombe en panne pour justifier d'acheter un plus récent qui est plus adéquat. Alors le Seigneur a dit, mais écoute David, tant que ça fonctionne, tu restes avec. Parce que lui, il a son mot à dire sur mes dépenses. Vous dites, mais c'est un peu ridicule. Pour moi, ce n'est pas ridicule. C'est simplement être un bon gérant de ce que le Seigneur m'a donné. Ou il y a notre temps. Si nous consacrons du temps au Seigneur, c'est bien. Nous faisons notre culte personnel. Nous passons du temps avec le Seigneur. Nous participons aux activités de l'Église, aux services pour lui ou celui rendu aux autres. Et tout cela est excellent. Mais on ne peut pas dire, mais écoutez, cette semaine, j'ai consacré 10 heures à Dieu, donc à moi de dire ce que je vais faire avec le reste de mon temps. Mais non, parce que Dieu m'a donné, 68 heures par semaine, c'est ça? Bon, je ne sais pas, mais enfin, je n'ai pas fait de calcul. Tout est à lui, et pas simplement 10 heures. Donc, ce que je fais du reste de mon temps est à lui aussi, est un acte d'adoration et de service pour lui. Nous organisons au sein de l'Église des activités pour l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas une activité de l'Église. Ce n'est pas une activité ponctuelle de l'Église. L'évangélisation, c'est la façon que vous vivez chaque jour de la semaine devant les autres. Et votre vie est la vraie évangélisation. La vie est ce qui va toucher les autres. Être un chrétien conséquent dans des moments difficiles, c'est comme ça qu'on touche les autres. C'est pas, bon, mais c'est très bien. Bon, mais souvent, les moments dits d'évangélisation, c'est on récolte le fruit de notre vie de tous les jours. Mais c'est quoi? C'était pas Augustin, c'était François d'Assise, je pense, qui a dit évangéliser à chaque instant et s'il le faut, parler. C'est-à-dire que notre vie est une évangélisation. Mais nous faisons tout par compartiment. Non, Dieu ne veut pas que nous vivions par compartiment. Il veut une vie qui est entièrement consacrée à lui, qui reflète la présence du Christ et de son amour à chaque instant. Et c'est cela le culte permanent. Le culte permanent, et je termine, de ceux qui plaisent à Dieu, c'est donc vivre la présence de Dieu à chaque instant, même si on ne le pense pas à Dieu à chaque instant. Et ce n'est pas facile. Et cela, c'est le culte que Dieu nous demande de lui présenter. C'est d'être conscient de sa présence et vivre sa présence à chaque instant. Alors surtout, ne vous culpabilisez pas. La vie chrétienne est un devenir constant. Vous pensez que depuis 64 ans que je connais le Seigneur, que je n'ai pas fait du progrès. J'en ai fait un peu quand même. Hein? Mais j'ai eu du temps pour progresser avec le Seigneur. Donc, c'est une sanctification progressive et régulière, cette vie avec le Seigneur. C'est une vie où le culte permanent se perfectionne et il se perfectionne de jour en jour. Alors, je vous pose cette question. Souhaitez-vous grandir dans votre relation avec le Seigneur et devenir un chrétien encore plus adulte et plus mûr, malgré votre âge? Oui, malgré votre âge et votre expérience avec lui. Il n'y a personne ici, même les aînés parmi nous, qui ne peut pas grandir encore en Christ, progresser. Alors, la croissance dans la maturité spirituelle, je dirais encore la sainteté progressive, se réalise dans le culte permanent plutôt que dans le culte du dimanche matin. Cela nous aide. Mais c'est tous les autres jours de la semaine qu'on grandisse vraiment. Que Dieu nous aide à faire de notre vie un culte permanent qui plaira à Dieu, qui sera à la gloire et à la louange de son nom, et qui nous apportera un véritable bonheur et une joie, parce que nous vivons chaque instant avec lui, dans sa présence, et dans une croissance qui nous fait ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et Dieu nous bénira. On ne peut pas donner à Dieu sans en recevoir en retour. Alors, tout en quittant cette salle de culte tout à l'heure, je vous souhaite, mes frères et sœurs, un excellent culte pendant toute cette semaine. Amen.